Bear Market versus Bear Trap. Je pèse tous les arguments techniques et fondamentaux. Chers amis, suivez chaque matin mes analyses publiées sur le profil Swissquote du site TradingView, une analyse par jour sur toutes les classes d'actifs. Et enfin, je vous rappelle que le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi pour cette nouvelle édition du Top Gain. Ça va être costaud, ça va être complet, ça va vous plaire. Je vais essayer de faire ça de manière synthétique et rapide, mais je suis allé au bout des choses en allant vous chercher plein d'indicateurs ciel et pas que de l'analyse technique. On va aller voir du côté des gérants, du côté de la liquidité, du côté de la part du cash chez les investisseurs institutionnels. Beaucoup de données globales, macro, pour déterminer si cette phase de respiration qui a pu commencer la semaine dernière. On sait que les actions sont en survalorisation, notamment les stars de la tech. Il y a de la volatilité. Bon, mais en même temps, les choses sont loin d'être perdues. Certes, nous sommes beaucoup plus proches de la fin du bull market que du début. Le début, c'est fin 2022. Alors, je pose cette question. Bear market ou bear trap, dernière leg up de fin d'année et phase plus délicate en 2026. Alors, pour répondre à cette question, il faut prendre le temps, il faut poser les choses, il faut faire du multicritère. Alors, on ne va pas faire du multicritère pour noyer le poisson. Regardez les choses factuellement, où elles en sont, et je vais essayer de faire ça en détail en allant au-delà d'une simple ligne de support ou de résistance. Bon, alors, première grosse partie, je commence par ce qui va plutôt dans le sens d'une dernière leg up. Je commence par ce qui pourrait permettre de reporter, décaler dans le temps, l'engagement d'une phase baissière ou d'un gros range, parce que finalement, bull market, bear market, le marché pourrait rentrer en range. Prenez l'exemple du S&P 500 entre 2015 et 2018, c'était un gros range, c'est possible aussi ça. Je commence par une grosse partie sur la liquidité. Première partie, la liquidité valide-t-elle l'engagement ou non d'un bear market ? Et la liquidité, c'est quoi ? Elle aussi, elle est multifactorielle, cette liquidité. Donc je vais tout reprendre. La liquidité structurelle, la masse monétaire mondiale M2, la liquidité nette US, la politique monétaire non conventionnelle de la Fed, le TGA, le compte courant, si vous voulez, du Trésor public américain auprès de la Fed, tout ça s'accumule, se cumule pour créer les conditions de liquidité générale. Donc on va regarder ça. Et effectivement, bon, là, je commence tout de suite, je commencerai cette première partie. Cette première partie sera plutôt des lueurs d'espoir. Mais attention, beaucoup de choses qui sont en faveur de l'engagement d'un bear market. Que ce soit tout de suite maintenant ou un peu décalé ou début 2026, il faut être extrêmement prudent. Encore une fois, nous sommes dans une phase haussière archi-mature, nous sommes ultra-valorisés, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Oui, la valorisation boursière autorise, alors ne déclenche pas mécaniquement, automatiquement, mais oui, les valorisations boursières atteintes, de manière globale, alors en grande partie à cause de la tech. Oui, c'est la valo de la tech, mais bon, si la tech corrige, vous pensez vraiment que le reste va pumper ? Bon, il peut y avoir des rotations, des arbitrages, mais tout de même, l'impact sur les indices boursiers sera tel du fait de leur poids que bon, vous savez, il y a 10 valeurs, c'est 45% du calcul du S&P 500. Bon, il n'y a pas que le S&P 500, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais bon, si le S&P 500 s'en prend une, je vois pas pourquoi le Russell 2000 explosera à la hausse. Vous voyez ? Okay. Alors, par contre, s'il se met simplement en range, là, des choses sont possibles. Donc, oui, la valorisation boursière autorise le bear market. Vous allez voir pourquoi. Il n'y a pas que le price earning de Shiller dont je vous parle beaucoup. Je vais vous parler cette fois-ci aussi du price earning forward. Vous allez voir. En fait, on arrive sur les records de 2000. Alors, 2000, c'était la bulle dite spéculative .com. Alors à l'époque, la bulle a éclaté parce que les prix atteints en bourse étaient sans rapport avec des fondamentaux qui pour la plupart étaient à zéro. Là, me direz-vous, j'en ai parlé dans le Top Gain il y a un mois, on retrouve les niveaux de valorisation de l'année 2000. Alors sur certains critères de valo, on est déjà sur des records bien plus hauts. Mais selon les deux baromètres les plus importants que sont le P/E Shiller et le Price Earnings Standard, mais Forward, on est quasiment au record de 2000, on n'y est pas encore tout à fait. Donc il reste un peu d'upside. Mais on y sera. À la différence près qu'en 2000, en face, les fondamentaux, c'était peanuts. D'accord. Mais Il est vrai que, malgré tout, la valorisation atteinte autorise au moins une phase de respiration. Bear market est un grand mot. Bear market est un grand mot. Le marché peut respirer. Correction courtable. Ou peut rentrer dans une phase rangy. Comme le S&P 500 a pu en faire dans son histoire. On va regarder aussi les graphiques. Et justement, troisième partie de cette vidéo, je passe en revue 10 critères d'analyse technique. Mais pas que. La participation aussi, la participation institutionnelle, ce que font les gérants, le sentiment. Je passe en revue beaucoup de critères, et notamment les graphiques de moyen long terme, et pas que sur le S&P 500. On va regarder le Nasdaq, on va regarder le Russell, on va regarder les actions européennes. On va regarder tout ça pour voir si, eh bien, nous avons des conditions d'entrée en bear market, c'est-à-dire des résistances majeures, des phases de distribution, des divergences baissières. Il faut regarder aussi l'allocation d'actifs chez les gérants, et en particulier lorsque la part du cash est tout en bas, en général, bon, c'est qu'on est propice à l'engagement d'une phase de correction sur les actifs risqués. Où sont toutes ces datas? Je les ai toutes rassemblées, donc on va les regarder. La saisonnalité, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc là, tout de suite, depuis mon introduction, on a déjà 20 critères. Peut-on cocher toutes les cases de l'engagement d'un bear market? Ou reste-t-il une dernière leg up pour rentrer plus tard, peut-être en 2026, dans une phase de bear market ou une phase rangy? Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gear.
Je pèse tous les arguments techniques et fondamentaux. Et si on commençait par se réduire un peu? Attendez, j'appuie. Et voilà, c'est parti. Alors, bear market versus bear trap. Tous les arguments technical and fundamentals. C'est parti. Donc, le plan, très simple, trois parties. Je vous les ai décrites. Grosse partie liquidité, grosse partie valorisation, grosse partie technique. Et on commence par la première partie. La liquidité prospective.
Valide-t-elle l'entrée bear market? La réponse est non. Au stade actuel, la réponse est non. Alors, la liquidité, c'est un concept complexe que je vais essayer de simplifier. C'est tout ça. La liquidité structurelle globale, à l'intérieur de laquelle on va retrouver le compartiment Trésor public américain, Réserve fédérale des États-Unis, la Fed à proprement parler, et le cycle à venir des taux d'intérêt. Alors commençons par le commencement. Le compte du Trésor public US auprès de la Fed, ce qu'on appelle le TGA. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, le shutdown, la fin du shutdown, ouvre un potentiel de liquidité majeur. Je m'explique. Je vous avais donc expliqué que, ça fait beaucoup d'explications, que la Fed, que le Trésor public américain, l'État fédéral américain, détient auprès de la Fed un Treasury General Account, un TGA. Treasury General Account, qu'est-ce que c'est? C'est le compte courant de l'État fédéral auprès de la Fed. Ce compte courant a été rempli entre juin et début octobre. Comment? L'État fédéral émet des obligations, il prend du cash, il le stocke sur un compte courant. Lorsque ce TGA est rempli, le TGA appartient au Trésor public américain, à l'État fédéral, mais est hébergé chez la Fed. Lorsque le TGA est rempli, ensuite il est dépensé. Les salaires des fonctionnaires, les investissements, les multiples dépenses de l'État, les soutiens à l'économie, les programmes d'aide, etc. Sauf que début octobre, le TGA est arrivé rempli, prêt à être dépensé, et le 1er octobre, le shutdown a commencé. Donc, depuis début octobre, il y a une énorme poche de liquidité. Ce sont des centaines de milliards de dollars qui devaient se déverser dans l'économie, qui ne se déversent pas à cause du shutdown. Dès que le shutdown est levé, ça va se redéverser. Et ça, c'est une poche de liquidité énorme. C'est une poche de liquidité énorme qui est mise entre parenthèses. C'est comme si, en fait, depuis début octobre, et ça va s'arrête à la fin du shutdown, c'est comme si depuis début octobre, on était dans une parenthèse temporelle. On est dans une petite boucle temporelle. On tourne sur nous-mêmes, mais il ne se passe plus rien. On en sortira avec la fin du shutdown. Je récapitule. À cause du shutdown, le TGA reste extrêmement élevé. Ce TGA qui a été rempli de juin à octobre et qui devait se vider progressivement inonder l'économie de cash à partir de début octobre. Sauf que, à cause du shutdown, cette liquidité est contenue. À partir du moment où le shutdown se termine, le TGA se remet à baisser parce que l'État fait les dépenses qu'il doit faire et la liquidité est réinjectée. Et voilà, en fait, ça c'est quelque chose de primordial. C'est hasard du calendrier ou pas. La Fed, l'État fédéral avait prévu de remplir son TGA jusqu'à fin septembre, début octobre, et le shutdown a commencé le 1er octobre. Manque de peau. Donc tout ça, c'est de la liquidité qui va arriver. Tout ça, c'est de la liquidité qui va arriver. D'ailleurs, lorsque vous prenez ici la courbe bleue, alors j'ai pris le cours du Bitcoin, mais je pourrais prendre le S&P 500, regardez simplement la courbe bleue. La liquidité globale, la liquidité structurelle globale, c'est l'addition des masses monétaires M2 de tous les pays, l'addition du bilan de toutes les banques centrales, dont le bilan de la Fed, et notamment le TGA, Treasury General Account, du Trésor public US auprès de la Fed. Lorsque ce TGA va se vider, la liquidité va revenir sur les marchés. Et là, on parle de centaines de milliards de dollars. C'est gigantesque. Donc, non. Cette poche de liquidité qui arrive, la liquidité d'ailleurs structurelle, ici, elle est projetée, parce qu'il faut toujours du temps pour que ça arrive dans l'économie, elle est projetée de 10 à 12 semaines, elle reste en tendance bullish au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc, à la question de savoir, est-ce que la liquidité valide l'entrée en bear market, avec la hausse de la volatilité, notamment la semaine dernière sur les valeurs de la tech, la réponse est non. On continue. Il y a plein de facteurs, n'oubliez pas. Deuxième aspect, l'aspect politique monétaire non conventionnel de la Fed. Comme je vous l'ai montré à l'instant sur la courbe bleue, eh bien, la liquidité structurelle globale, c'est aussi l'addition des bilans des banques centrales. Bon, bien sûr, la Fed étant la première d'entre elles, ce bilan évolue en fonction des politiques monétaires, de la politique monétaire non conventionnelle. Le bilan se remplit en quantitative easing. Le bilan décroît en quantitative tightening. La Fed a annoncé lors de sa dernière décision de politique monétaire la fin du programme de quantitative tightening à partir du 1er décembre. Il y a déjà eu dans le passé des programmes de quantitative tightening qui se sont arrêtés. En septembre 2012, c'est un peu différent, mais la logique est la même, et notamment en août 2019. L'impact, pas immédiatement, mais l'impact avait été, dans les semaines qui suivaient, bullish sur le S&P 500. Donc, peut-on vraiment... Alors, ça n'écarte pas les corrections de 10-15%. Un bear market, là, je parle du bear market de moins 50%. Dans des conditions de liquidité comme ça, un bear market de moins 50, non. Oui, des corrections de 10%, de 15%, des retracements. Il y avait les 6200 points, c'est l'ancien record historique du S&P 500, on pourra y revenir. Mais un bear market de type 2001-2002 ou 2008-2009, pas dans de telles conditions de liquidité. À moins d'un choc exceptionnel, quelque chose d'incroyable, ou bah même il faut, la Fed lancer un QE, mais il faudrait quand même du temps pour que ce QE permette de stabiliser les marchés. Là, ce sera un cas de choc exceptionnel. Bon. En tout cas, donc, on voit qu'il y a des aspects liquidité qui sont prospectifs et qui pourraient arriver donc en soutien, qui peuvent arriver en soutien. Alors ensuite, bien sûr, l'autre aspect de la liquidité majeure, c'est le cycle prospectif du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et là, il y a un problème, encore une fois, à cause du shutdown. Le cycle prospectif du taux d'intérêt des fonds fédéraux, pourquoi y a-t-il un problème? Lorsque vous regardez l'outil CMA Fed Watch Tool, il devrait y avoir, et la probabilité n'est pas écrasante, il devrait y avoir avec 62% de probabilité une dernière baisse de taux en décembre, mais ensuite, statu quo le 28 janvier 2026, statu quo le 18 mars 2026, statu quo le 29 avril, bref, bon, en gros, pas de visibilité sur une trajectoire baissière de l'intérêt des fonds fédéraux. Ça, pour la liquidité prospective, c'est un problème. Ce problème est en grande partie lié au shutdown, le shutdown qui a stoppé, interrompu la publication de statistiques majeures que regarde la Fed, en particulier les chiffres CPI, même si un a été publié en retard, mais le PCE et le rapport NFP, parce qu'au fond, il n'y a que ça qui compte, le PCE et le NFP, l'inflation PCE et le NFP. Alors bien sûr, ces chiffres, une fois le shutdown terminé, seront publiés avec retard. Peut-être qu'ils n'autoriseront pas la Fed à baisser ses taux. Mais en tout cas, ça redonnera de la visibilité. Donc déjà, ça réduit l'incertitude. Maintenant, lorsqu'on regarde des indicateurs d'inflation temps réel, là, pour le coup, actuellement, Trueflation a vraiment une utilité.
parce qu'on est un peu dans le trou. Alors, l'inflation remonte, Trueflation est à 2,62. Bon, c'est pas non plus une envolée de l'inflation à 4% à cause des tarifs douaniers. On est toujours entre 2 et 3. Et finalement, c'est ce que dit par exemple aussi l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Fed, qui se projette sur les PCE, notamment celui de septembre qui est déjà en retard. Grosso merdo, vous voyez qu'on reste entre 2,7 et 2,9. Entre 2,7 et 2,9. Donc on est toujours, la cible de la Fed c'est 2. On est toujours entre 0,7 et 0,9 points de pourcentage au-dessus de la cible de la Fed, ce qui ne permet pas de faire chuter fortement les taux, sauf si vraiment l'emploi part en vrille, c'est pas le cas pour l'instant. Mais c'est pas non plus une vague d'inflation. Alors, effectivement, se maintenir entre 2,7 et 2,9, ça peut rendre compliqué un cycle baissier des taux d'intérêt l'année prochaine. Mais tout ça pour dire que, au stade actuel, l'inflation, n'oubliez pas, il y a les tarifs douaniers qui s'appliquent. Sans les tarifs douaniers, on serait peut-être déjà à 2. Il faut toujours raisonner comme ça. Les tarifs douaniers, il faut du temps pour que ce soit, pour que ce soit absorbé par les taux d'inflation, que ça se normalise. Voilà, la normalisation, il faut du temps. Il faut 4 à 9 mois. Donc là, on est en plein dans l'impact des tarifs douaniers, et finalement, on a un Trueflation à 2,6. Il n'est pas à 4. Donc, une fois la période de normalisation faite, ça va retomber à 2. On sera toujours dans la projection. Là, il y a une prime des tarifs douaniers. Donc si on est à 2,6 ou 2,7, et qu'on retire la prime des tarifs douaniers, c'est qu'on est quand même plus proche de 2 que de 3. Vous comprenez le raisonnement? Je pense que la Fed, les économistes de la Fed peuvent raisonner aussi comme ça. Donc c'est pas la cata, même si, effectivement, ça peut rendre compliqué des baisses de taux, notamment début d'année prochaine. Donc vous voyez, il y a des choses positives du côté de cette liquidité. Il n'y a pas que du négatif. On avance. Alors, bull, bear market versus bear trap. Quand je dis bear trap, c'est-à-dire que, bear trap, vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a des corrections de 5-10%, mais en fait, derrière, ça repart. Bear market, il y a une correction, on fait des petits dead cat bounce, mais la correction se poursuit. C'est vraiment ça la différence entre les deux. Alors là, oui, la valorisation boursière peut justifier. Alors, un bear market, c'est un grand mot. J'ai choisi ça, c'est pour que vous cliquiez sur le titre de la vidéo. Une phase de baisse en tout cas. Oui, les valorisations atteintes sont maintenant compliquées. C'est un fait. Je vais vous montrer une première illustration sur ce sujet au niveau des valos. Première illustration, vous avez ici la dernière enquête de la Bank of America, la BofA Fund Manager Survey. Voilà, vous avez ici le pourcentage de gérants qui s'expriment sur la survalorisation des actions, bon ben là, record de tous les temps, ont-ils raison? Ils ont raison. Je vais vous montrer deux indicateurs de valo. Ça nous vient de FactSet. Concentrez-vous bien. Vous avez ici le price earning forward du S&P 500. Le prix du S&P 500 rapporté aux bénéfices anticipés sur les 12 prochains mois. À la différence du PE classique où ce sont les 12 derniers mois. Et regardez, c'est passionnant. Nous sommes à 23,1, quasiment au même record que fin 2021. Et nous sommes au record de la bulle spéculative de 2000. Début de bear market. Et alors, à cause de qui? La réponse est là. À cause de la tech. Regardez un peu. Alors déjà, tous les secteurs ont globalement une valorisation au-dessus de leur moyenne. En bleu, c'est leur valorisation actuelle. Et en jaune, c'est la moyenne des 25 dernières années. Donc c'est là qu'on mesure qu'il y a quand même une survalorisation de la plupart des secteurs par rapport à leur moyenne des 25 dernières années. Mais vraiment, les deux secteurs archi-valorisés, la consommation discrétionnaire et la tech. Donc oui. Et puis, vous connaissez toujours, bien sûr, le PE de Schiller, le price earning de Schiller, qui lui est à 40, le record de 2000 est à 43-44. Donc on n'est pas loin, et effectivement, oui, la valorisation. Vous avez ce tableau récapitulatif avec le PE de Schiller, le PE classique, je viens de vous montrer le PE forward, donc au total, le PE de Schiller le premier, le PE classique, le Buffett Indicator, et le PE forward que je viens de vous montrer. C'est du rouge partout. C'est de l'alerte rouge partout. Donc, et là, on est vraiment dans la finance classique, la valorisation boursière. On peut avoir une phase de baisse ou un gros range, mais dans un range, il y a des phases de baisse et de rebond, du S&P 500, eu égard à la valorisation atteinte. En gros, il n'y a pas le droit à l'erreur. Vu maintenant ce que valent les actions par rapport à leurs bénéfices futurs, la moindre déception sur les publications de bénéfices créera des phases de baisse. Des phases de baisse, ça peut être 10, 15, 20%. Ce n'est pas forcément un 50% de bear market, comme ce fut le cas par exemple en 2001-2002, parce qu'à l'époque, oui, on avait atteint des valos incroyables, mais aussi, derrière, il n'y avait pas de fondamental, ou beaucoup moins que maintenant. Notamment sur la tech, où c'était du bullshit en 2000, parce qu'il fallait juste mettre .com pour ça. Voilà. Là, maintenant, bah, ils font du pognon. Il y a du cash hein, chez les Nvidia, les Apple, les Amazon, etc. Il y a du cash. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que lorsque le PE de Schiller va atteindre 44, s'il l'atteint, ça va quand même... C'est le record historique, là on est à 40. C'est vraiment quelque chose qu'il faut impérativement surveiller. Alors maintenant, sur le plan technique, peut-on sur le plan technique cocher toutes les cases? Peut-on cocher toutes les cases de l'entrée en bear market? Les cases sont nombreuses. La réponse, bien sûr, est non, mais il y a quand même des cases qu'on peut cocher. Voilà tous les critères que je vais passer en revue. Alors on commence par le S&P 500, Nasdaq 100, les graphiques de long terme. Oui, on est en surachat. Oui, on a atteint des résistances. Mais être en surachat, c'est bien. Être en surachat, c'est une chose. Avoir des divergences, c'est une chose. Donc oui, le S&P 500 est tout en haut dans un canal. Oui, il a atteint des cibles théoriques importantes de vague 5. Oui, il y a des divergences. Ok, c'est vrai qu'on est sur des niveaux où on n'est pas à l'aise. Prenez par exemple le S&P 500 mensuel, 100% de hausse, quasiment comme ici cette phase bullish avant le bear market, ici en échelle logarithmique. Il n'y a pas encore de divergence en mensuel. On n'a pas cassé de support majeur. Prenez par exemple ici, donc je suis en weekly, le système Ishimoku, regardez la Tenkan. On est encore support. Par contre, c'est vrai que si la Tenkan casse, on va retracer à 6002. En fait, c'est ça le risque sur le S&P 500. Prenez ici en daily, j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Vous voyez, regardez, comme c'est propre, c'est archi propre. Le Kumo fait support, on le casse, on corrige. Le Kumo fait support, moyenne mobile à 50 jours. Si jamais ça casse, bah on fait quoi? Le marché va retracer à l'ancien record. Donc ce qui nous pend au nez, c'est lorsqu'on va casser, si on casse tous ces supports, c'est de retracer ici. Par contre, cette zone-là, 6200, renforcée en plus par la moyenne mobile à 200 jours, sera un point d'achat. Donc oui, il y a des divs, il y a du surachat, il n'y a pas encore de cassure de support. Maintenant, si on regarde la profondeur du marché, le S&P 500 équipondéré, le Russell 2000, le Dow Jones, les choses sont un peu différentes parce qu'il n'y a pas eu de poussée sur ces marchés. C'est parce que la tech est beaucoup moins valorisée. Prenez par exemple le S&P 500 équipondéré. Lui, il est à peine à son record. On est très loin du surachat. Prenez par exemple l'indice Dow Jones. Pareil. Lui, il vient à peine de dépasser son ancien record, il n'y a pas de surachat. Là, regardez, il y avait une div du surachat, une div du surachat, là, il n'y a pas de surachat. Prenez le Russell 2000. Le Russell 2000, il n'a même pas dépassé son record de l'ancien cycle. Donc, il y a quand même des choses où on n'est pas... Prenez même le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, oui, il est tout en haut. Oui, on est en surachat. Il n'y a pas encore de divergence comme on a eu ici dans le passé. Donc il y a beaucoup de signaux où on comprend que le marché est quand même surétendu à la hausse, mais il n'y a pas encore de cassure de support majeur qui peuvent déclencher ce retracement à 6002. De la même façon, vous prenez l'Eurostock 50 pour les actions européennes. Sur les actions européennes, il n'y a pas encore de signe de surachat, il n'y a pas de divergence non plus. Donc il n'y a pas que les actions américaines. Je vais vous prendre ici l'Eurostock 50 pour représenter les actions européennes. Regardez. Pas de divergence, pas de surachat. En mensuel, pas de divergence, pas de surachat. On est même en train d'essayer de casser ici ce record. Prenez par exemple ensuite l'aspect quantitatif. Il n'y a pas d'évidence de surachat. De la même façon pour le sentiment des traders particuliers. En termes quantitatifs, on a à peine 38% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. On n'est pas entre 80 et 90. Le sentiment du marché, il y a encore 37% de vendeurs. dans les phases vraiment d'euphorie où on est près de l'effondrement, qu'on est tout en haut, il y a une large majorité d'acheteurs qui écrasent les vendeurs. Là, il y a toujours équilibre des forces entre acheteurs et vendeurs. Ce ne sont pas des conditions d'euphorie qui peuvent justifier un bear market de 50%, peut-être une correction de 10-15%, mais pas de 50%. De la même façon, je regarde aussi beaucoup alors le dollar américain. Il faut absolument regarder le dollar américain parce que un dollar bullish, ça correspond à une phase de bear market. Le dollar US, de la même façon, lorsque l'effet de levier, la dette de marge atteint des excès, ça correspond, ça peut donner le point de départ d'une phase de bear market. Eh bien, je reviens ici sur le dollar américain. Oui, le dollar, et j'en ferai un topo dans le Fast and Forex, est proche d'un point pivot qui pourrait valider ici une phase de reprise, les divergences, on a les divergences, pattern, breakout, peut-être une pattern, double bottom, mais on n'a pas encore le breakout. Donc c'est encore trop tôt. Il faut surveiller ça, mais c'est encore trop tôt. La dette de marge, je vous en parlais à l'instant, la dette de marge est représentée ici. Et là, vous avez notamment la déviation à la moyenne ici des 48 derniers mois. Oui, l'effet de levier a atteint une résistance importante, mais il a pu aller plus haut. Par exemple, la crise financière, l'effet de levier est monté jusqu'ici en déviation par rapport à sa moyenne des 48 derniers mois. Encore plus haut au dot-com. Par contre, on est revenu sur un effet de levier similaire à ce que fut le début du bear market de 2022. Donc là aussi, il y a une alerte, il n'y a pas non plus une garantie. Nous sommes dans des zones où, clairement, on a un marché haussier mature. Il faut être méfiant, mais on n'est pas non plus dans l'excès final. C'est ça que je veux dire. Il peut rester la place à une dernière leg-up. Ce n'est pas garanti, mais c'est possible. C'est possible. De la même façon, regardez les données de saisonnalité. Encore le cycle présidentiel, la pire année, c'est la deuxième année du cycle présidentiel, c'est plutôt l'année 2026. En termes de saisonnalité, les données sont à jour cette fois-ci. Novembre et décembre sont des bons mois pour le S&P 500 en l'absolu, en termes de saisonnalité. Donc il faut aussi regarder ces données-là. Là aussi, ça ne milite pas pour l'engagement d'un bear market massif cette fin d'année 2025. Par contre, là, soyons extrêmement prudents. Le pourcentage de cash chez les gérants est tombé à 3,8%. Et nous sommes vraiment dans une zone basse. Si vous voulez, une fin de bear market, c'est quand le pourcentage de cash est tout en haut. Vous voyez ici, c'était les bottoms de marché. Et là, au contraire, c'est souvent les points hauts. On est sous le seuil des 4% qui est un seuil d'alerte. On peut aller encore un peu plus bas, on peut s'y installer un peu, mais on est dans une zone où, à un moment ou à un autre, le pourcentage de cash va remonter. Et si ce pourcentage de cash remonte, c'est qu'il y a un désengagement des actions. Alors oui, là, ce sont des conditions d'allocation d'actifs qui peuvent être en faveur d'une phase de bear market. Donc tout ça pour résumer, la liquidité dit non, la valorisation dit oui, l'analyse technique multicritère dit attention surchauffe, attention oui c'est mature, mais pas encore de cassure de support majeur, pas de signal massif de renversement, mais effectivement, on est dans une phase de maturité de bull market, mais quand tu as affirmé que ça y est, ça a commencé, c'est sûr et certain et tout, il n'y a absolument pas assez d'éléments. Et je continuerai à faire le point régulièrement sur l'ensemble de ces sujets, chers amis. Je dois arrêter parce que la vidéo doit durer 30 minutes. J'espère que ça vous a plu, il y a beaucoup de choses, vous pouvez tout reprendre. Et bien sûr, je ferai le suivi ça chaque semaine. Merci à tous.
Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets LTD régulée par la SAISEC, Swissquote Bank Europe SA régulée par la CSSF, Swissquote LTD régulée par la FCA, Swissquote Financial Services LTD régulée par la MFSA, Swissquote MEA régulée par la DFSA, Swissquote PTE LTD régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited licenciée par la SFC et Swissquote South Africa LTD supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris, mais sans s'y limiter, actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.